A-t-on affaire dans l'hôpital à une poussée de fièvre ou à une maladie chronique sur fond de crise des urgences? Le Sénat a donc adopté hier en première lecture le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn avec de nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux, une suppression du numerus clausus, une labellisation de 500 à 600 hôpitaux de proximité. Le plan prévoit de mieux organiser le système de santé et de réduire les inégalités d'accès aux soins. Alors pour réagir à ce plan, je suis en compagnie de Christophe Prudhomme, bonjour. Christophe Prudhomme, vous êtes médecin urgentiste, vous êtes délégué national CGT Santé et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Ce plan, c'est ce que vous attendiez ?
Ah non, absolument pas. Vous savez, tous les 5 ans, on a une nouvelle loi qui nous promet que dans 10 ans, ça ira mieux. Enfin, vous voyez, la loi de Madame Bachelot d'il y a 10 ans nous a amené à la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une maladie chronique, mais là, avec ce qu'on appelle en termes médicaux une acutisation. Là, il y a une vraie... Une acutisation, c'est-à-dire qu'il y a une phase aiguë dans la maladie chronique. Une phase aiguë dans la maladie chronique, pourquoi ? Bah parce que notre système de santé ne va pas bien. Et les urgences sont le miroir grossissant de tous ces dysfonctionnements. C'est-à-dire que on reçoit tous les patients qui ne trouvent pas de médecin en ville. Et surtout à l'hôpital, le quotidien, c'est on cherche des lits. Vous voyez, on passe son temps à chercher les lits pour nos patients. Et pendant qu'on passe son temps à chercher un lit pour un patient, eh bien, on peut pas s'occuper de ceux qui arrivent en masse, parce que, c'est le service public, c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, on a effectivement les patients les plus graves, mais aussi on a les problèmes sociaux. On doit s'occuper de tout ça. Et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on travaille en permanence à flux tendu. On peut plus se reposer. Et là, ça fait craquer le personnel.
Bon, on va écouter Agnès Buzyn et ses propositions. Elle semblait extrêmement conciliante, votre ministre.
Ce que je propose, c'est que pour tous les services qui sont en tension de façon ponctuelle, les agences régionales de santé recrutent des intérimaires de façon ponctuelle dès que l'hôpital tire la sonnette d'alarme. C'est ce qu'on appelle l'hôpital en tension, et donc au cas par cas. Et puis, quand il y a des services qui dysfonctionnent de façon chronique, souvent, c'est aussi lié au fait que l'hôpital dans son entier n'a pas pensé les flux d'aval, c'est-à-dire comment libérer les urgences. Et là, je demande aux directeurs d'hôpitaux de prendre des mesures particulières pour laisser des lits libres en aval des urgences pour coucher les gens. Je ne veux plus qu'il y ait des gens sur les brancards, il y a moyen de le faire.
Est-ce qu'elle vous convainc ?
Non, la ministre ment. Écoutez, le plus grand hôpital de France, qui est l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris, aujourd'hui est dans un plan de retour à l'équilibre, hein, ça c'est la novlangue, en fait c'est un plan d'économie, qui prévoit 800 à 1000 suppressions d'emplois par an pendant 5 ans, et la fermeture de lits, les lits pour les personnes âgées, ce qu'on appelle les lits de long séjour, pour les personnes âgées les plus dépendantes. Donc entre ce que dit la ministre, qui a changé un petit peu de discours, hein, qui sur France Inter la semaine dernière était très agressive contre les collègues qui étaient en arrêt maladie, donc là elle essaye d'arrondir son discours, mais la réalité sur le terrain n'est pas du tout celle qu'elle décrit. Embaucher des intérimaires, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est pas des intérimaires, ce sont des personnels statutaires et qui vont rester. Et c'est pas que dans les... Quand elle parle d'hôpital en tension, c'est tout l'hôpital qui est en tension, donc c'est pas quelques hôpitaux, il faut rajouter des intérimaires. C'est qu'on demande un plan massif d'embauche, c'est on a chiffré le manque de personnel dans les services d'urgence à partir d'un référentiel professionnel pour assurer la sécurité des patients. Il manque 10 000 professionnels dans les services d'urgence pour qu'on puisse travailler correctement.
Où ? Partout en France ?
Oui, 10 000 pour toute la France.
Ça veut dire que les hôpitaux sont égaux devant...
Ah ben la crise elle est partout aujourd'hui. Écoutez, on a une centaine...
Parce qu'on entend surtout les hôpitaux, par exemple, à Creil, j'ai entendu Lons-le-Saunier.
Et oui, mais regardez, Creil, Lons-le-Saunier, Agen, Montauban, Paris, c'est toute la France aujourd'hui.
Pour les mêmes raisons, ai-je l'impression, Christophe Prudhomme.
Bah, écoutez, oui, bien sûr, la situation à Paris n'est pas la même qu'à Lons-le-Saunier, mais à Lons-le-Saunier, ils sont en grève depuis le mois de décembre. Ils se battent pour garder le deuxième véhicule du SAMU. Dans une région à faible densité de population, difficile géographiquement, et on leur dit, il faut faire 1 million d'euros d'économie, on vous supprime la deuxième équipe du SMUR. Après avoir fermé le SAMU du Jura, vous voyez, on est dans une logique depuis des années où on a fermé 100 000 lits en 20 ans. Et donc aujourd'hui, la ministre dit, oui, dans les hôpitaux qui sont en tension, on va embaucher les intérimaires. Non, on demande un plan Marshall pour l'hôpital d'embauche massive de personnel, on manque de médecins. Eh bien, écoutez, pour qu'on soulage le travail des médecins, on peut embaucher des aides-soignantes, des infirmières. Une aide-soignante, ça se forme en 10 mois. Une infirmière, en 3 ans. Donc, ce que nous dit la ministre aujourd'hui ne nous satisfait pas. Vous savez, à chaque prise de parole de la ministre, il y a de nouveaux services qui se mettent en grève.
Bon, et moi je pensais qu'un bon urgentiste, c'était un vieil urgentiste. Autrement dit, que si on embauchait des gens, alors vous dites de 10 mois à 3 ans, il faudrait d'abord fidéliser,
oui, il faut fidéliser
le personnel, puisque le personnel a un turnover, comme on dit, autrement dit, une propension à démissionner parce qu'il en a assez, qui est assez élevé dans les services d'urgence, Christophe Prudhomme.
Oui, aujourd'hui, dans les services en région parisienne, à l'assistance publique, une infirmière reste en moyenne 3 ans dans un service d'urgence. Au
bout de 3 ans, ça va pas.
Elle est complètement grillée. Et les jeunes médecins, à 40 ans, ils en peuvent plus. Ils étaient passionnés par la médecine d'urgence et ils disent non, moi je vais pas pouvoir travailler jusqu'à 65 ans, voire plus, dans ces conditions, donc j'arrête. Et donc cette crise, elle est grave, profonde, et c'est pas simplement, vous voyez, ce qu'on appelle nous la câlinothérapie de la ministre, vous êtes les meilleurs, mais on est les meilleurs quand il y a l'épidémie de grippe, on est les meilleurs quand il y a les attentats, on est les meilleurs quand il y a la canicule, ça suffit, on demande des moyens aujourd'hui.
Alors justement, on est au téléphone avec Nelly Igouf. Nelly Igouf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aide-soignante de nuit au service d'accueil et de traitement des urgences de l'hôpital de Creil dans l'Oise. Vous êtes gréviste depuis mars. Alors, j'ai souhaité...
Depuis janvier.
Depuis janvier, pardon. J'ai souhaité que l'on vous ait au téléphone. Vous avez travaillé cette nuit, n'est-ce pas ?
Oui.
Donc là, vous êtes en train de terminer votre service. Dites-nous, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Qu'est-ce qu'un service comme celui des urgences de l'hôpital de Creil doit absorber ?
Bah écoutez, cette nuit, nous, on est arrivé à 21h, on avait, on va dire, 15 patients en attente, plus ceux qui étaient déjà dans les urgences. Donc, on gère des urgences qui sont là depuis, on va dire, midi, qui attendent.
Ah, c'est-à-dire, en fait, les gens qui sont passés depuis votre prise de service, donc à 21h, ils attendaient déjà depuis midi.
Oui, il y a des gens qui étaient là depuis midi.
Et ils avaient quoi ? Parce que malheureusement, tous, on a l'expérience des urgences pour des proches. On a emmené un enfant, un grand-père. Et bon, on sait que quand un enfant, il a un petit bobo au doigt, il attend. Bon, c'est normal. Est-ce que les gens qui ont attendu si longtemps, est-ce qu'ils avaient une urgence urgente, si j'ose dire, Nelly Igouf ?
Parmi ces gens-là, oui, forcément, il y a des urgences qui sont plus urgentes, on va dire. Mais bon, la plupart des gens qui attendent sont des gens âgés. Donc, ils ont plusieurs pathologies. Donc, c'est compliqué de faire la part des choses quand les gens attendent, en fait. Oui, il y a forcément des gens qui attendent, qui sont urgentes, mais bon, on essaye de faire le tri quand même, hein, parce que, bon, ben voilà, on est obligé. Hein. Mais on va dire que les urgences, quand même, sont surchargées de gens qui n'ont pas vraiment des pathologies à prendre en urgence.
C'est-à-dire, en fait, ce sont des gens qui attendaient, mais qui, en règle générale, n'auraient pas dû être là, parce qu'ils auraient dû être traités par de la médecine de ville ?
Ah, il y en a, oui. Mais pas tous. Il y en a.
Christophe ?
Mais bon,
Oui, je vous en prie, Nelly Igouf, parce que comme vous êtes au téléphone, c'est un peu compliqué. Christophe Prudhomme est à côté de moi.
C'est que quand on attend, quand des gens attendent, bien sûr, on essaye de faire attendre ceux qui ont les pathologies les moins graves, mais parfois, parce qu'on est débordé, eh bien, il y a quelqu'un qui passe à travers les mailles du filet, c'est ce qui s'est passé à la Riboisière, et ça aboutit à un décès. Et ça, c'est catastrophique pour les personnels. Je pense que Nelly me dira la même chose.
Nous, ça nous est déjà arrivé à Creil, hein. De toute façon, oui, ça c'est sûr. Il y a des gens qui passent, le fait d'attendre beaucoup et d'avoir beaucoup de gens à gérer, on peut pas tout voir. Donc oui, il arrive des choses qui devraient pas arriver.
Mais alors, sans trahir des secrets, qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, cette nuit ? Quelles sont les pathologies qui, normalement, n'auraient pas dû être traitées par les urgences, Nelly Igouf ?
Des gens qui viennent pour des boutons, des gens qui viennent pour des maux de gorge, souvent des pathologies qui traînent depuis des mois ou des semaines. Mais bon, on n'a plus de médecin traitant, c'est compliqué.
Et oui, c'est ça, Christophe Prudhomme, vous qui êtes médecin urgentiste et délégué national CGT Santé. Il y a aujourd'hui un problème à l'hôpital qui est la conséquence de la disparition, probablement pas des médecins traitants, mais d'un cas... j'allais dire qu'il y a un problème concret auquel on a tous été confrontés lorsqu'on essaye d'avoir un rendez-vous en urgence pour un proche. Ben, bien souvent, on s'entend dire que les médecins sont complets. J'imagine qu'eux aussi, ils sont surchargés. Du coup, ça se reporte forcément sur vous.
Oui, il ne faut pas opposer la médecine de ville et l'hôpital. Vous savez, nos collègues généralistes en ville, ils n'en peuvent plus. Ils sont 10 000 de moins qu'il y a 20 ans. Les médecins généralistes. On a formé un nombre de médecins insuffisant, ces dernières années, mais surtout on ferme beaucoup trop de spécialistes par rapport aux généralistes. On a une population vieillissante et donc ce sont des généralistes qui doivent les prendre en charge et non pas l'accumulation, vous voyez, de spécialistes. Je vais voir le cardiologue, je vais voir le pneumologue, etc. Il y a besoin de coordination.
Et alors et pourquoi les gens ne veulent-ils plus être généralistes?
Non, c'est pas que les gens veulent plus être généralistes, c'est que on ne forme pas assez de médecins. Et que on reproduit un système qui est la médecine du XXe siècle avec une organisation de l'hôpital en service spécialisé, alors qu'aujourd'hui la médecine du XXIe siècle, ce sont essentiellement des patients de plus de 50 ans qui ont des maladies chroniques, qui se soignent mais qui ne se guérissent pas. Donc c'est pas du tout la même approche. On a besoin de médecins généralistes en ville et à l'hôpital qui coordonnent la prise en charge des patients. Et ça, on en manque dramatiquement aujourd'hui. Et tenez-vous bien, dans deux départements français, la Guyane et la Guadeloupe, savez-vous où on va aller chercher les médecins aujourd'hui? On va importer des médecins cubains. Parce que eux, ils savent faire de la médecine générale. C'est quand même, on est la sixième puissance mondiale et on est obligé d'importer des médecins cubains. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien.
Agnès Buzyn vous a entendu. Elle a expliqué qu'elle allait supprimer le numerus clausus. Il y aurait plus de médecins.
Mensonge de la ministre. Elle augmente de à peine 10% le nombre de places en deuxième année de médecine. Donc on va être à 9350 médecins, alors que les générations de médecins formés dans les années 70 qui vont partir à la retraite sont de plus de 10 000. Et pourquoi on ne peut pas augmenter le nombre de médecins en formation? Parce que les universités sont dans le même état que nous. De plan d'économie en plan d'économie, le doyen de la faculté de Tours, qui représente les doyens de l'ensemble des facultés de France, a dit « Je voudrais bien accueillir plus d'étudiants, mais donnez-moi les moyens, donnez-moi de l'argent. Je n'ai pas les moyens d'accueillir ces étudiants. »
Nelly Higou, vous êtes au téléphone avec nous. Vous êtes aide-soignante de nuit au service d'accueil et de traitement des urgences de l'hôpital de Creil dans l'Oise. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Est-ce que les annonces de la ministre vous ont satisfaite? Bon, j'imagine que non, mais expliquez-nous pourquoi.
Bah, nous, on demande de qu'on réouvre les lits qui ont été fermés depuis quelques années. On veut éviter aussi la fermeture d'un service là qui va être fermé parce qu'il n'y a pas de médecin. Donc là, ça veut dire des gens en plus dans les couloirs.
Mmh. On demande aussi. Alors la ministre a dit, par exemple, je veux plus voir de malades sur les brancards. C'est possible ou pas?
Non. Bah non, on n'a même pas assez de brancards des fois.
Alors si je venais maintenant à l'hôpital de Creil aux urgences, actuellement vous avez combien de patients sur les brancards?
Là ce matin?
Oui.
Non, bah là ce matin pas beaucoup, on avait une dizaine. Bah ça reste quand même des gens sur des brancards.
Mais vous voulez dire qui étaient sur des brancards de manière durable ou uniquement en attente de passer
Non, c'est des gens qui sont dans les urgences. Qui reste dans les urgences.
D'accord. Donc c'est une situation effectivement anormale. C'est quelque chose de commun, dit, Christophe Prudhomme.
Elle vous dit que c'est. On a un seuil de tolérance incroyable. Elle vous dit que 10 patients qui attendent un lit sur des brancards, c'est pas beaucoup. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on s'habitue aujourd'hui à des dysfonctionnements majeurs qui entraînent une surmortalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que 10 patients sur des brancards, vous savez, on a des études françaises internationales qui montrent que quand les gens restent sur des brancards et ne sont pas dans des lits, il y a une surmortalité de 9% et de 30% pour les patients les plus graves. Donc la situation est quand même catastrophique.
Mais alors vous avez combien de lits, Nelly Gouff, aujourd'hui? Vous dites 10 personnes sur des brancards, combien de personnes dans des lits?
Dans les urgences?
Oui.
Ah non, dans des lits, on ne met pas dans les urgences.
Non mais, alors je sais pas comment on appelle ça, mais encore une fois, à chaque fois que je vais dans des urgences, il y a des petits box avec des lits, et donc des gens qui sont là et qui vont ensuite en soins intensifs, en réa. Combien vous avez de lits de ce type?
Ce qu'on appelle le service porte, le service d'hospitalisation des urgences.
Ah, on a 12 lits, donc, dont une cellule et une chambre d'isolement.
Vous avez 12 lits, et vous recevez combien de personnes par nuit?
Ah bah on remplit le service des portes la nuit.
Oui, mais combien recevez-vous de gens?
Ah, en tout?
Oui.
La nuit, on va, je dirais, entre 30, 35.
Bon, est-ce que le ratio Christophe Prudhomme, parce que 30-35 personnes, on imagine que Dieu merci, les 30-35 personnes ne doivent pas être hospitalisées.
Non, mais là, c'est bon, 30-35 personnes dans la nuit, mais le service de Creil est, je crois, à 150 passages par jour.
Par jour, mais en 24 heures, pas la nuit.
Voilà, c'est ça, c'est que la nuit, en 24 heures. Donc là, aujourd'hui, on manque de lits. Vous savez, 100 000 lits ont été fermés en 20 ans. Et parce qu'on nous a expliqué qu'on allait tout régler par l'ambulatoire. Mais ça, c'est une grande escroquerie. L'ambulatoire, c'est très bien pour les pathologies très identifiées en chirurgie.
Est-ce que l'ambulatoire, c'est pas bien pour les pathologies chroniques, puisque vous évoquiez la multiplication?
Les pathologies chroniques, c'est très bien de pouvoir garder les gens à la maison ou, par exemple, dans les maisons de retraite. Sauf qu'aujourd'hui, dans les maisons de retraite, on n'a pas suffisamment de personnel. Vous savez que l'an dernier, il y a eu une grande grève. On n'a pas d'infirmière, on n'a pas de médecin. Et dans mon service, qui est le SAMU de la Seine-Saint-Denis, nous venons de faire une analyse sur les chiffres. En 5 ans, le nombre d'appels en provenance des EHPAD pour hospitaliser les patients, en 5 ans, a augmenté de 70%. Si on avait des infirmières, des aides-soignantes dans ces EHPAD, la plupart du temps, les personnes âgées pourraient rester dans leur environnement et pas venir aux urgences où elles restent sur les brancards dans des conditions inadmissibles.
Mais alors, le problème, Christophe Prudhomme, c'est que comme le personnel des urgences fait un boulot miraculeux, à chaque fois qu'on y va, et encore une fois, ça nous arrive tous, pour un enfant, une mère, et ben finalement, on voit que les gens sont prise en charge, même si effectivement, on voit bien que les gens sont débordés. Du coup, on a l'impression que c'est vous l'élastique, mais l'élastique, il ne se rompt pas.
Mais l'élastique, là, il est en train de se rompre. Vous voyez, il est en train de se rompre parce que, vous voyez, la ministre qui a été très agressive sur les collègues qui se sont mis en arrêt de maladie, c'est les médecins qui les ont vus, hein, et qui ont jugé que leur état psychologique et physique ne leur permettait pas de retourner au boulot. Voilà. Donc, parce que c'est l'épuisement professionnel, on n'en peut plus. L'élastique craque. On a trop tiré sur la corde. Et aujourd'hui, vous savez, ce qui est catastrophique, c'est que dans nos métiers, l'expérience compte énormément. Et que les gens quittent le métier avant d'avoir acquis cette expérience, vous voyez qu'on est à la pyramide d'âge, c'est catastrophique.
Est-ce que c'est pas l'expérience aussi de l'urgence, du chaos, enfin bref, du fait que dans un service d'urgence, comme dans d'autres situations de travail, bah finalement les choses elles peuvent pas être réglées, organisées.
Non, les choses peuvent pas être réglées, mais quand même, vous savez que ce soit le chaos permanent, les urgences, oui, il y a des moments où il faut avoir la poussée d'adrénaline parce que il y a un afflux de patients, mais quand on est en permanence sous tension. Vous comprenez bien qu'on peut pas être en permanence sous tension. Et là, aujourd'hui, on est en permanence sous tension. Et ça, vous savez, pour les soignants, la tension permanente, c'est un facteur de risque d'un certain nombre de maladies, en particulier les maladies cardiaques. Et puis aussi, psychologiquement, c'est difficile à supporter. Et donc, les soignants
sont
malades.
C'est aussi ce que l'on aime parfois dans le travail, c'est-à-dire lorsqu'on est urgentiste, on aime aussi.
Mais pas en permanence. C'est ça le problème. C'est-à-dire que d'être sous pression, en permanence, et puis surtout, ce qui est grave, c'est d'avoir l'impression, mais c'est pas que l'impression, c'est la réalité, de ne pas s'être occupé correctement des patients, d'avoir été maltraitant, ou d'être passé à côté de quelque chose de grave. Vous savez, pour les collègues
à la Riboisière... Ça vous arrive souvent, cette sensation ?
Ah bah oui, écoutez, parce que pour un décès à la Riboisière, au mois de décembre...
C'est terrible !
Il y en a toutes les semaines dans les services d'urgence, qui ne sont pas forcément médiatisés. Et pour les équipes, c'est catastrophique.
Décès, vous voulez dire, évidemment, des décès.
Le cas de la Riboisière, c'est régulier dans les services d'urgence en France. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que ça, c'est destructeur psychologiquement pour les équipes.
Christophe Prudhomme, vous êtes médecin urgentiste, délégué national CGT Santé et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci Nelly Higou, vous êtes aide-soignante de nuit à l'hôpital de Creil. On se retrouve dans quelques instants. Nous serons en compagnie d'un sociologue, Pierre-André Juvin, chargé de recherche au CNRS, et il nous donnera son point de vue sur les réformes de l'hôpital public. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Toujours plus de patients aux urgences, trop peu d'effectifs en face, c'est ce que dénoncent les nombreux soignants urgentistes qui font grève depuis maintenant 3 mois. Le mouvement s'est amplifié ces dernières semaines et le collectif Inter-Urgences comptait hier 95 services en grève. C'est dans ce contexte de crise des urgences et plus généralement de l'hôpital public que les sénateurs ont adopté hier en première lecture le plan Ma Santé 2022. Le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn prévoit de mieux organiser le système de santé, de réduire les inégalités d'accès aux soins. On l'a évoqué ce plan avec Christophe Prudhomme, délégué national CGT Santé, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Et nous accueillons Pierre-André Juvin, bonjour. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, spécialiste des politiques de santé. Et vous avez notamment publié La Case du siècle à propos des réformes de l'hôpital public. C'est coécrit avec Frédéric Pierru et Fanny Vincent, et c'est aux éditions Raison d'agir. Si vous deviez, en sociologue, nous dire quelles sont les spécificités de cette crise de l'hôpital public, que diriez-vous, Pierre-André Juvin ?
Bonjour. On pourrait noter d'abord deux spécificités. La première, c'est le fait que ce soit un mouvement qui a été initié par des paramédicaux, donc beaucoup d'infirmières et d'aides-soignantes. Et la deuxième spécificité, c'est les méthodes qui sont adoptées dans la mobilisation. Ça a souvent été rappelé et ça a été même dénoncé par la ministre de la Santé et par certains députés. En général, les soignants et les soignantes, quand ils se mettent en grève, continuent de soigner pour assurer une permanence des soins, et pour continuer de soigner tout en étant en grève, ils affichent de façon ostensible leur mise en grève, donc par un brassard ou par une indication dans le dos. Ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est précisément qu'il y a eu des soignants et des soignantes qui ont été mis en arrêt maladie et donc qui ont conduit les établissements à devoir faire face à moins de personnel, ce qu'ils font de toute façon d'habitude.
Alors pourquoi sont-ce les paramédicaux, les infirmières, les infirmiers, les brancardiers, bref, qui aujourd'hui symbolise en quelque sorte ce mouvement, Pierre-André Juvin?
Parce que il y a une conjonction entre à la fois des conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées et pour ces catégories-là, des conditions de rémunération qui sont extrêmement faibles. Ce sont des personnels qui gagnent entre 1500 euros net et 2000 euros net, en moyenne 1800 euros net pour une infirmière par exemple, qui travaillent sans compter leurs heures, qui ont affaire d'autant plus dans les services d'urgence à des situations de tension, d'angoisse, parfois de violence. Et la conjonction de ces deux phénomènes a conduit effectivement ces professions à se mettre en grève.
Alors c'est une question de rémunération et ou de sous-effectif?
Les deux, ce sont les deux revendications principales du mouvement, donc qui est un collectif qui s'est monté et qui est à l'origine de cette grève, donc le collectif Interurgence, et les deux revendications qui sont portées par ce collectif sont celles-là. Une augmentation de 300 euros par mois pour les professionnels de santé qui travaillent notamment dans ces services-là, et deuxièmement, et surtout d'ailleurs, et quand on les écoute et quand on discute avec eux, c'est la première des revendications, une augmentation des effectifs. Une augmentation des effectifs qui permettra précisément de rendre les conditions de travail moins délétères, de rendre l'accueil des patients plus facile et donc de rendre les violences et les agressions moins fréquentes.
Est-ce que ça veut dire que les médecins sont plutôt à la remorque, si j'ose m'exprimer ainsi dans cette revendication ?
Là, ce mouvement-là a été initié par les paramédicaux. Après, on va le voir, les médecins sont en appui du mouvement et commencent de plus en plus clairement à soutenir le mouvement. Il y a eu un enjeu pour les paramédicaux aussi à être identifiés, et notamment à être identifiés par les pouvoirs publics comme des catégories à part, qui jusqu'à maintenant n'étaient pas très écoutées, et donc apportaient leurs propres revendications.
D'accord, donc c'était bien un enjeu de cette négociation et de ces revendications. Et puis, on ne peut pas faire autrement que d'inscrire ce mouvement également dans la suite du mouvement des Gilets jaunes, puisque il y avait bien entendu beaucoup d'infirmières, de brancardiers parmi les Gilets jaunes. Alors c'est très empirique hein, comme constat, mais justement vous, en tant que sociologue, Pierre-André Juvin, qu'est-ce que vous en pensez ?
Dans le livre que vous avez mentionné, donc qu'on a écrit avec Frédéric Piru et Fanny Vincent, on fait cette analyse-là, c'est-à-dire un rapprochement potentiel dans les combats sociaux des gilets jaunes et des blouses blanches, pour reprendre une image que nous avons utilisée, notamment parce que les paramédicaux appartiennent à une grande partie de cette population qui s'est mobilisée au moment des gilets jaunes, à savoir des catégories professionnelles qui travaillent dans des conditions difficiles, pour des rémunérations très faibles, qui ont souvent besoin de leur voiture et donc qui payent la taxe sur le carburant. Et on a vu au sein des Gilets jaunes énormément de professionnels de santé se mobiliser, et surtout on a vu au sein du mouvement des Gilets jaunes en miroir une vraie préoccupation pour l'hôpital public et le système de santé solidaire.
Et ça veut dire qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction suite aux annonces du gouvernement, ou alors il y avait d'autres revendications qu'ils souhaitent porter indépendamment du mouvement des Gilets jaunes, Pierre-André Juvin?
Les revendications qui sont portées depuis plusieurs mois, elles sont tout sauf entendues, et il n'y a pour l'instant aucune réponse. La seule réponse que le gouvernement apporte, alors elle n'est pas des moindres, c'est effectivement le plan de réforme Ma Santé 2022, mais qui, de l'aveu même du gouvernement et du pouvoir politique, n'aura des effets, s'il n'a des effets, que dans 10-15 ans.
Christophe Prudhomme.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que...
Vous êtes médecin.
Moi, je suis médecin, mais je représente aussi la CGT, donc on représente avant tout les personnels. On n'a pas souhaité que les médecins viennent en soutien. Parce que la tendance dans le milieu hospitalier, c'est quand les médecins posent des revendications, on va parler aux médecins et on n'écoute pas les personnels. Donc ça a été une vraie stratégie. Et ce qui est intéressant au niveau sociologique, c'est que effectivement il y a un collectif, Mais c'est pas un collectif contre les syndicats, c'est un collectif avec les syndicats. C'est-à-dire que ce sont des jeunes, c'est pour ça qu'ils se sont regroupés en collectif. Et pour nous, c'est fantastique, c'est un renouveau de l'action collective. Et pour le syndicalisme, c'est un exemple. C'est-à-dire que là, on travaille ensemble. Hier, on a été reçus ensemble. Jeudi dernier aussi, ensemble. Et donc, on va... C'est porteur pour l'avenir parce que les gens ont repris confiance, vous voyez, avec le mouvement des Gilets jaunes. Et vous savez, moi, cette grève aux urgences est partie de Paris il y a 2 mois, mais j'étais à Lons-le-Saunier, qui est en grève depuis le mois de décembre. 2 initiatives que nous avons fait là-bas, où j'étais présent, avec les Gilets jaunes, avec la Fédération des motards en colère, avec des élus de proximité et les blouses blanches. Et on a dit, voilà... Les gilets jaunes avec les blouses blanches ensemble parce qu'aujourd'hui on veut des services de public de proximité et on veut du personnel pour pouvoir assurer notre travail dans de bonnes conditions et assurer la sécurité des patients. Donc voilà, c'est ça qui rassemble aujourd'hui.
Est-ce que vous ne faites pas de nécessité et vertu, Christophe Prudhomme, sachant que les syndicats ont été très largement débordés par les gilets jaunes? Aujourd'hui, c'est un mouvement que vous cherchez à rattraper. C'est pas mal hein, de rattraper un mouvement, mais juste, vous n'en avez pas été les initiateurs à la CGT, et donc vous cherchez aujourd'hui
ça,
à
c'est
vous...
Ça, c'est pas gênant, vous voyez, il faut sortir de ces schémas-là. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont que les salariés se mobilisent sur des revendications. Et après, les syndicats, ils sont là, en soutien, ils organisent, et puis voilà. Enfin, ce qui est important, c'est que ensemble on crée le rapport de force, on définisse ensemble des revendications fortes, et ce mouvement, du fait de cette, c'est pas que les syndicats, c'est le collectif Inter-Urgence, on a un très fort soutien de la population. Vous savez, aujourd'hui, quand on fait grève à l'hôpital, on n'arrête pas les trains, on coupe pas l'électricité. Donc, on porte des badges, et c'est le soutien de la population, c'est des formes d'action que les jeunes utilisent, les flash mobs, voilà, faut être un petit peu inventif, et nous, ça nous bouscule les syndicats, mais c'est très positif. Vous voyez, la manifestation traditionnelle, même au sein des syndicats, on se commence à se dire que bon, faut peut-être en sortir. Donc voilà, c'est très positif. C'est un renouveau du mouvement social.
Alors, en tant que patient, on est bien entendu content qu'il n'y ait pas de grève bloquante à l'hôpital, Pierre-André Juvin. Est-ce que ça n'est pas aussi une explication du fait que ces grèves, ou en tout cas ces mouvements sociaux, ils soient moins efficaces que d'autres?
Alors, en tant que patient et patiente, on est content que les soignants ne s'arrêtent pas de travailler quand ils sont en grève. Cependant, le reste de l'année, c'est-à-dire quand ils ne sont pas en grève, on le sait maintenant, il y a des trous dans les effectifs et qui ne sont pas dus à des grèves de soignants, mais qui sont dus à des problèmes de sous-effectifs, à un phénomène d'absentéisme qui est lié à la fatigue de ces mêmes professionnels de santé. Et donc, le reste de l'année, ça ne se voit pas, mais l'hôpital fonctionne en effectif tendu. Et après, effectivement, une des spécificités de ce mouvement, c'est cet arrêt de travail comme vous l'avez dit, qui est quelque chose de complètement nouveau et qui a conduit certains établissements même à devoir anticiper le fait que des soignants ne viendraient pas travailler, donc à avoir recours à l'intérim de façon préventive. Et lorsque ces soignants finalement sont venus travailler, parce qu'ils n'allaient pas être mis en arrêt maladie, on a décidé de les renvoyer chez eux.
Donc, effectivement, un mouvement un peu particulier. Christophe Prudhomme, est-ce que ça veut dire, malgré tout, que les syndicats, malgré toute leur bonne volonté depuis tant d'années, finalement, ils n'arrivent rien à obtenir?
Ah mais les syndicats, ils arrivent à obtenir. Vous savez, moi, dans mon service, nous avons mené une grève pour obtenir des téléphonistes du SAMU, ce qu'on appelle les assistants de régulation médicale. On a commencé la grève le 24 décembre à minuit, à 15h, on signait un accord. Et c'était avec le syndicat. Il y a des endroits où les syndicats sont en capacité d'organiser, dans d'autres endroits, c'est de l'organisation spontanée, ensuite, qui s'organise. Non, tout ça, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens reprennent confiance face à un rouleau compresseur, qu'on peut caractériser ce gouvernement de cette manière-là, pour, effectivement... Que demain soit pas pire qu'hier, c'est ça le problème. Parce qu'autrement, il y a une désespérance et c'est catastrophique.
Bon, alors regardez, puisque la régulation au SAMU, c'est, semble-t-il, un point crucial pour les urgences, puisque c'est là où s'effectue l'orientation. La question du transport des ambulances, elle est aussi cruciale. Et alors, c'est un constat empirique hein, que je vais faire, mais de plus en plus, lorsqu'on appelle les urgences, on se retrouve face à des sociétés privées d'ambulances. Ça, par exemple, vous ne l'avez pas obtenu, c'est bien ou mal d'avoir des sociétés privées d'ambulances?
Le problème des sociétés privées d'ambulances, aujourd'hui, vous savez, on a les pompiers qui sont le service public, qui doivent suppléer quand les sociétés d'ambulances ne sont pas là. Le problème aujourd'hui, c'est est-ce que la santé relève du service public? Est-ce qu'on l'organise sur le territoire pour respecter un principe constitutionnel qui est l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire, ou est-ce qu'on laisse le marché s'auto-organiser? Nous, on considère que la santé, ça relève pas du service marchand, c'est le service public. Donc voilà.
On imagine que la CGT pense là,
c'est essentiel aujourd'hui parce qu'on a un tournant. Est-ce qu'on va vers le système américain ou est-ce que on revient aux valeurs? de la sécurité sociale, du Conseil national de la résistance. Vous savez, c'est pas une question, la question droite-gauche. Qui est-ce qui a créé le meilleur système de santé au monde? C'est la France, grâce à la programmation, à l'aménagement du territoire, à la planification de De Gaulle, quand même, et du professeur Debré, vous voyez? Et c'est la CGT qui vous le dit. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui disent « Ah oh mais non, mais le marché va s'auto-organiser et tout ira mieux demain. » Non, le marché s'auto-organise pas dans le monde de la santé.
Alors, justement, la question que je vous posais, lorsqu'on appelle le SAMU et qu'on a une ambulance privée, est-ce que ça veut dire que, finalement, le cas pour lequel vous avez appelé est jugé peu grave, oui, ou est-ce que c'est un dysfonctionnement?
Non, non, la régulation, on essaye de faire au mieux, mais encore faut-il qu'on puisse décrocher le téléphone. Vous savez que le dernier rapport là qui a été publié, et ça a été médiatisé dans Le Point, 4 500 000 appels au SAMU dans l'année ne sont pas décrochés, parce qu'on n'a pas assez de téléphonistes. 4 500 000. Donc après, on jongle avec des moyens limités. Quand on vous envoie une ambulance
privée... C'est énorme, parce qu'on parle de 21 millions, ça veut dire que 25%... Alors, 21 millions sont les visites aux urgences.
Non, non, il y a un peu plus de 30 millions d'appels dans les centres 15 SAMU. Donc c'est une proportion très importante. Donc on a des moyens limités, vous voyez... On a des ambulances privées. En général, quand on envoie une ambulance privée, c'est que le cas est identifié comme pas grave. Mais, vous savez, on est toujours sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'on fait un diagnostic au téléphone, mais on peut se tromper le diagnostic au téléphone. Et quand on a des ambulances privées qui mettent une heure pour aller chercher un patient, ça pose problème. Alors, parfois, on supplée avec les pompiers. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, vous avez des services publics qui se facturent entre eux. Quand on demande aux pompiers d'intervenir à la place d'une ambulance privée, eh bien, le conseil départemental, le service départemental d'incendie et secours facture la prestation à l'hôpital. On marche sur la tête.
Pierre-André Juvin, du point de vue sociologique, qu'est-ce qu'un hôpital ? Précisément, on a affaire à une organisation qui est là pour gérer des urgences, pour gérer des situations qui ne sont pas des situations habituelles de la vie ou de service dans le monde, j'allais dire, traditionnel, où il n'est pas question de vie, de mort, de maladie. Du point de vue sociologique, qu'est-ce que ça implique ?
Alors la question qu'est-ce qu'un hôpital est une question fondamentale et c'est une question démocratique et qui engage un débat large puisque vous pouvez avoir plusieurs définitions de l'hôpital et en fonction de ces définitions, plusieurs façons de compter ce que va coûter l'hôpital. Et donc les moyens que vous accordez à l'hôpital public vont dépendre de ce que vous entendez par hôpital public. Il y a une partie des élites réformatrices qui considèrent que l'hôpital doit aujourd'hui devenir un établissement non plus où l'on accueille mais où l'on soigne uniquement et où l'on soigne en matière de soins très techniques. Donc, une sorte d'hôpital surtechnicisé pour du soin aigu et qui se déferait de tout un tas d'autres missions qui sont les siennes historiquement. Cet hôpital-là, il va avoir un coût. Et un autre type d'hôpital, et c'est celui que défendent en général les soignants et les soignantes, et même de façon générale, on en parlait, les citoyens et les citoyennes à travers des mouvements comme les Gilets jaunes, c'est un hôpital qui, certes, va assurer ses missions de soins très techniques, mais qui va aussi jouer un rôle de soins plus larges, de médico-social, qui va être aussi un lieu où on prend le temps d'écouter les patients, et non pas où l'on les surveille, où on prend le temps aussi de prendre en compte les différences entre personnes. Un cadre de 30 ans en bonne santé qui va se faire opérer n'est pas du tout dans la même situation qu'une personne âgée, isolée et qui a plusieurs pathologies. Et donc cette différence de définition entre d'hôpital, un hôpital technique ou un hôpital au sens sanitaire et social, elle va avoir deux implications politiques différentes. Et aujourd'hui, on sait vers quelle direction tendent les politiques publiques ces dernières années.
C'est-à-dire ?
Elle tend très clairement vers le premier type d'hôpital, c'est-à-dire un hôpital hyper technicisé, avec une passion pour l'innovation, le numérique, le médical, avec la privatisation d'énormément de services au sein de l'hôpital, et on mentionnait le cas des urgences, avec des enjeux par exemple liés à l'hébergement, c'est-à-dire que de plus en plus naissent des hôtels hospitaliers, c'est-à-dire des hôtels à côté de l'hôpital pour ne pas avoir à garder les patients dans l'hôpital la nuit, puisque une nuit à l'hôtel va coûter moins cher qu'une nuit d'hospitalisation, mais le problème, c'est la façon dont les patients vont devoir payer ces nuits d'hôtel, à la différence d'une nuit d'hospitalisation. Donc, voilà, il y a tout un système qui est en train de se mettre en place, dont on ne parle pas forcément beaucoup, et qui, encore une fois, relève d'un débat démocratique.
Vous en pensez quoi, Christophe Prudhomme, vous qui êtes urgentiste ?
Là, les mots ont leur importance, mais vous voyez, la ministre nous parle d'hôpitaux de proximité. Mais quelle est sa définition d'hôpital de proximité ? C'est un hôpital où il n'y aura plus de chirurgie, plus de maternité, plus de services d'urgence. Pour moi, ce n'est pas un hôpital, ça. Ça s'appelle un hospice. C'est revenir à l'hôtel-dieu du Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est le mouroir pour personnes âgées. Vous voyez? Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que...
Vous y allez un peu fort parce que...
Ah mais non, j'y vais un peu fort parce que... Parce que réellement, écoutez, là, j'étais à Concarneau. Vous voyez, Concarneau, c'est quand même une ville qu'on connaît. Il y a un peu de population l'été, hein, y a les touristes. les urgences, aujourd'hui, à Concarneau, ferment à 19h. C'est-à-dire, si vous venez, si vous faites votre infarctus à Concarneau à 19h05, il faut attendre le véhicule du SAMU qui vient de Quimper, qui va mettre 40 minutes pour venir. Écoutez, aujourd'hui, c'est du déménagement du territoire. On ferme les hôpitaux de proximité, on concentre les moyens dans des structures hyper techniques dans les métropoles. Et dans les métropoles se concentrent à la fois le secteur public et le secteur privé lucratif en face du CHU. Vous avez la clinique, qui est la propriété d'un fonds d'investissement étranger, qui se met en concurrence de l'hôpital parce que c'est dans les métropoles où il y a une population solvable. C'est ça la logique aujourd'hui. Et c'est cette logique-là qu'on combat.
Bon, mais à cela, la ministre vous répond qu'à Concarneau, alors je ne vise évidemment pas spécifiquement Concarneau, mais il n'y a pas de possibilité démographique d'avoir un hôpital avec tous les services d'urgence complets. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
On ne demande pas tous les services. Mais vous savez, qu'est-ce que c'est un hôpital de proximité ?
Ça, non, mais c'est... là, je répondais par exemple... Oui, par rapport à la médecine cardiaque, à la cardiologie, y avait-il avant la possibilité d'avoir un service complet de cardiologie à Concarneau ?
La question, c'est pas de tout avoir en proximité. Quand vous faites un infarctus, il faut qu'on puisse vous transporter éventuellement en hélicoptère sur le centre de référence. Mais pour les pathologies classiques, banales, la proximité, c'est la sécurité. Un service d'urgence classique, qui va permettre de faire le tri. Et si vous avez besoin du plateau technique à 50 km, on vous transporte à 50 km. La maternité de proximité et la chirurgie ambulatoire. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans la grande métropole pour faire la chirurgie ambulatoire? Si on prend la cataracte, qui est une des principales interventions en France pour les personnes âgées. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller dans le super CHU pour être opéré de la cataracte. Les premiers qui ont opéré de la cataracte dans l'histoire humaine, ce sont les Égyptiens, dans l'Égypte ancienne. Donc on peut peut-être faire ça dans l'hôpital de proximité. Sauf qu'aujourd'hui, non, ce que nous vend la ministre, c'est lâche plus de chirurgie dans les hôpitaux de proximité. Plus de chirurgie. Il n'y aura plus de chirurgie dans les hôpitaux de proximité. Si vous voulez faire opérer, vous aurez le choix entre le CHU avec des délais d'attente importants ou la clinique privée où il faudra la carte bleue et la carte vitale.
Mais c'est pas sérieux. L'hôpital de proximité, peut-être que le terme est mal choisi. Effectivement, moi j'en vois son utilité sur le territoire, lorsqu'il est question par exemple de trouver un médecin de garde le samedi ou le dimanche, et bien entendu on n'en trouve pas, et du coup on va à l'hôpital de proximité. Lorsque l'hôpital de proximité est dans l'incapacité de soigner le patient, effectivement il est conduit vers un hôpital plus important. Est-ce que ce principe vous dérange ?
Non mais je vous explique. L'hôpital de proximité, je vous donne un exemple de ce qui se passe déjà aujourd'hui.
Non mais moi aussi, je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans ces hôpitaux de proximité, vous avez parfois des ce ne sont plus des urgences si ce n'est pas ouvert 24h sur 24. C'est-à-dire, vous avez un centre d'accueil.
Moi, je parle d'hôpitaux de proximité où il y a des urgences, où on vous accueille, mais vous savez.
On va les fermer, ces hôpitaux. On est en train de les fermer. C'est-à-dire qu'on ferme les urgences la nuit dans ces hôpitaux de proximité. Donc, la nuit, eh bien, vous n'aurez plus rien. Voilà. Et on vous dit, ah oui, mais il y a l'hélicoptère. Mais enfin, l'hélicoptère, ça ne vole pas quand il y a trop de vent, quand il y a un plafond qui est très bas. Ce n'est pas la bonne solution. La proximité doit permettre de traiter les pathologies banales près de chez soi. Et quand on a besoin effectivement du plateau technique, on se déplace. Autrement, le plateau technique est encombré par des patients qui n'ont plus aucune offre de soins en proximité. Et là, ça dysfonctionne.
Pierre-André Juvin, qu'est-ce qui se passe à l'étranger ?
Alors, qu'est-ce qui se passe à l'étranger ? Par exemple, si on prend le cas du Royaume-Uni, qui est le cas que je connais un peu, on observe également des disparités très fortes entre établissements. Ce qu'on retrouve en France aussi, c'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux qui se portent bien et qui ont pu bénéficier à un moment de certaines règles du jeu, et notamment de règles du jeu financières qui les ont arrangées, et d'autres qui se portent très mal. Et au Royaume-Uni, c'est exactement ce qui s'est passé également. On a eu une vague d'autonomisation des établissements de santé. Et cette autonomisation, elle était liée à une idéologie qui était au fond, les structures, et c'est aussi valable en France, et notamment avec les universités, les structures seront mieux gérées, envisageront mieux ce que sont leurs besoins si on leur confie notamment leur autonomie budgétaire. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est que de nombreux établissements se sont saisis de cette autonomie pour lancer des stratégies d'investissement, des business plans, ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui en France, et on finit par se retrouver quasiment au niveau de la faillite. Et le gouvernement britannique lui-même a été obligé de revenir sur cette mesure qui permettait aux établissements d'être autonomes, en considérant qu'un hôpital ne pouvait pas, et donc on est au Royaume-Uni, qu'un hôpital ne pouvait pas fonctionner qu'à des seules fins de rentabilité financière. Et en France, c'est intéressant parce que c'est exactement ce qui s'est passé également. Au début des années 2000, on a mis en place un système de financement, la tarification à l'activité, qui avait vocation à dire aux établissements, débrouillez-vous comme vous voulez, choisissez choisissez les activités qui vous intéressent, mais soyez à l'équilibre. Et donc beaucoup de directeurs et de directrices d'hôpital se sont retrouvés pris dans cette injonction entre des professionnels de santé qui exprimaient des besoins de santé et des agences régionales de santé et le gouvernement qui fixaient des objectifs financiers.
Y a-t-il un pays, Pierre-André Juvin, qui puisse faire office de modèle en matière de services hospitaliers?
Moi, je réponds toujours que non, et de la même façon que les repoussoirs ont aussi une vocation dans les discours politiques.
C'est-à-dire l'Angleterre est plutôt un repoussoir.
Oui, l'Angleterre est plutôt un repoussoir. Bah, l'Angleterre
est aussi
un service public intégral, alors avec des grandes inégalités. Mais les comparaisons internationales, elles sont toujours très très compliquées, notamment quand on prend le cas de la France, parce que c'est un système de santé et un système de financement qui est très très spécifique. Le système de santé français, qui fonctionne sur du public et sur du privé, c'est quelque chose de très à part. Et c'est ce que disait il n'y a pas très longtemps.
Pourquoi à part ? Parce que la coexistence des deux est, je dirais, fréquente dans le monde ?
Non, et elle est à part parce que elle a été instaurée, donc précisément, enfin elle a été conservée après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment pour éviter de créer des clivages. C'était une période où il fallait être capable de conserver l'Union nationale, et notamment la pratique de la médecine libérale aussi à cette époque a été conservée au sein de l'hôpital public pour permettre aux médecins de venir à l'hôpital public tout en conservant une activité privée. Mais cette coexistence d'une médecine privée, d'une médecine publique, d'une médecine libérale et d'une médecine salariée, crée des tensions très importantes aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous en pensez, oui, Christophe Prudhomme ?
Il n'y a pas de modèle, on peut prendre des exemples pour essayer d'améliorer le système et d'éviter les erreurs. Mais si on prend ce que disait tout à l'heure Pierre-André Juvin, la tarification à l'activité, ce mode de financement qui est tiré de l'industrie. On avait l'expérience d'un certain nombre de pays qui l'avaient adopté, et qui déjà envoyait les effets pervers, c'est-à-dire la sélection des patients rentables, et on délaissait ce qui n'était pas rentable. Et on l'a quand même mis en place en France. On disait à l'époque qu'on allait obtenir les mêmes résultats que dans les pays dont on se servait d'exemple. On nous a pas écoutés, et maintenant vous avez y compris les députés de la majorité qui reconnaissent qu'ils sont trompés.
Alors, parce que le problème pour les défenseurs de ce système de la tarification à l'activité, la question posée était de savoir si on avait fait les bons tarifs pour les activités.
Non, c'est le système qui est pervers, parce que cette tarification à l'activité...
Tout système a un effet pervers.
Mais on les connaissait, c'est-à-dire que c'est un système inflationniste, parce qu'il faut que vous multipliez les actes pour pouvoir être rentable. Si vous regardez le problème aujourd'hui, pour mon collègue qui est dans un service, il fait sortir précocement le patient. C'est pas grave si il est pas bien encadré à domicile et s'il revient par les urgences. Vous voyez? Donc on le fait sortir précocement, il rentre chez lui, il repasse par les urgences, on a payé un premier séjour, il rentre, on paye un deuxième séjour. Mais en termes de santé publique et humainement, c'est inacceptable. Vous voyez? Donc ces effets pervers, ils existent aujourd'hui et il faut qu'on s'en débarrasse.
Pierre-André Juvin.
Il y a deux façons de fonctionner différentes à partir de ces outils-là. Une première façon, c'est de considérer qu'il faut un usage raisonné des moyens publics alloués à l'hôpital public. Et ça, personne ne le conteste. Et à la base, les outils qui devaient permettre la tarification, donc le système d'information, le calcul de coûts, devaient permettre simplement un usage raisonné de l'argent public. Et c'est ce que disaient les gens qui ont inventé ce système, et ils le disaient au pouvoir politique dans les années 90, ne vous servez pas de cet instrument pour créer des tarifs, et donc autrement dit pour inciter à l'activité. Ne faites surtout pas cela. C'est exactement ce qu'ont fait les pouvoirs publics au début des années 2000, avec une autre logique qui n'est pas seulement celle d'un usage raisonné de l'argent public, qui est celle d'une logique de rentabilité, en disant aux hôpitaux, il faut que systématiquement vos recettes soient supérieures à vos dépenses. Et donc évidemment, ça a créé des logiques de compétition entre hôpital, des logiques de captation et des logiques d'inflation de l'activité, et notamment aux urgences. Et c'est pour ça que les services d'urgence aussi ont vu leur activité augmenter. C'est qu'il y avait une incitation financière à voir le nombre de passages aux urgences augmenter.
Et cela, justement, Christophe Prudhomme, aujourd'hui, donc, on voit les effets pervers de ce système-là. Néanmoins, et vous savez très bien que vous ne parviendrez pas, comme d'autres services ou d'autres organisations publiques ou parapubliques, à vous exonérer de la contrainte budgétaire.
Non, mais la contrainte budgétaire, la question, c'est de savoir ce que l'on dépense. Mais aujourd'hui, vous savez, dans notre système, il y a de l'argent qui est mal employé. Aujourd'hui, quand je vous le dis, faire sortir trop précocement les patients pour qu'ils reviennent par les urgences, c'est très coûteux. Vous voyez, il faut qu'on se pose des questions sur la prise en charge des patients en fin de vie. Ils sont beaucoup mieux à domicile qu'à l'hôpital. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je préfère que les personnes âgées restent dans leur maison de retraite, dans leur EHPAD, plutôt que de venir à l'hôpital et il faut quelques infirmières en plus et des médecins qui puissent les suivre en EHPAD et qu'elles viennent par l'hôpital. Donc vous voyez, c'est la remise à plat de l'ensemble du système de santé, mais selon quelle logique ? Est-ce qu'on est dans une logique financière où il faut qu'un hôpital fasse de l'activité pour être rentable, ou est-ce qu'on est sur une logique d'organisation d'un service public performant qui répond aux besoins de la population en utilisant au mieux les deniers publics ? Voilà.
Pierre-André Juvin, il y a aussi tout un discours qui consiste à dire que l'hôpital sera sauvé par la technique, la technologie, etc. Vous en pensez quoi ?
C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de deux modèles différents d'hôpital.
Oui, mais avec un cran au-dessus, on va vous dire par exemple maintenant, on va y avoir des consultations, ça existe déjà, hein. Mm-hmm. La télémédecine va par exemple faire de grands progrès, etc. Est-ce que ça c'est un discours en lequel on peut croire, ou c'est encore une fois une question de religion avec des miracles qui vont se faire attendre ?
Alors, il y a un discours technophile qui se développe de plus en plus dans tous les secteurs, mais notamment dans le secteur de la santé, comme quoi effectivement l'innovation va sauver l'hôpital. Elle va sauver l'hôpital parce que d'abord ça va créer des marchés, c'est-à-dire que tout un tas de start-up, d'entreprises vont pouvoir développer des innovations et donc créer de la croissance et de la valeur, et également parce que ça va permettre effectivement de résoudre un casse-tête pour les décideurs qui décident de s'en tenir à enveloppe constante, c'est-à-dire sans augmenter les moyens de tenir la qualité des soins. C'est un discours qui, à notre avis, et c'est ce qu'on développe dans le livre, est aussi une illusion et sur lequel il faut faire attention.
Pierre-André Juvin, La casse du siècle, votre livre coécrit avec Frédéric Pierru, Fanny Vincent aux éditions Raison d'agir. Merci à Christophe Prudhomme, médecin urgentiste délégué national CGT Santé.